Travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades, je me présente à l'élection présidentielle pour faire entendre le camp des travailleurs, les intérêts des ouvriers, des employés, des jeunes et des moins jeunes qui sont condamnés au chômage et au petit boulot, les intérêts de ceux en invalidité ou à la retraite. Je suis candidate pour que des millions de femmes et d'hommes qui font tourner l'économie dans des conditions toujours plus difficiles en étant de moins en moins payés, puissent dire qu'ils existent, qu'ils sont les forces vives de ce pays et qu'ils ont des droits. Ensemble, nous faisons tourner toute la société. Nous produisons toutes les richesses, y compris les super profits qui sont encaissés par une minorité, y compris les produits de luxe qui sont réservés aux plus riches. Les progrès des transports, de la médecine, toutes les prouesses techniques, c'est nous. Nous sommes indispensables à la bonne marche de l'économie et de la société. Alors, nos intérêts, nos emplois, nos salaires, nos retraites, nos conditions de travail et de vie doivent passer avant les parachutes dorés des PDG, avant les dividendes des actionnaires et avant les fortunes d'une minorité capitaliste. Il faut que nous fassions entendre le camp des travailleurs. Et quand on appartient au monde du travail, eh bien voter pour Le Pen, Fillon, Hamon ou Macron, c'est voter contre son camp. C'est voter contre ses intérêts et c'est tendre le bâton pour se faire battre. Parce qu'ils aspirent tous à gouverner pour le compte de la bourgeoisie et ils sont socialement étrangers à la classe ouvrière. On le mesure parfaitement avec le feuilleton Fillon. Vous avez peut-être raté tous les épisodes, mais enfin, je crois qu'on a compris l'essentiel. Hein, vous avez vu que Fillon se dit victime d'un acharnement médiatique et il reste droit dans ses bottes. Hein, il nous répète en boucle qu'il n'a rien fait d'illégal, comme si c'était ça le problème. Fillon ne se rend même pas compte du décalage qu'il y a entre ses leçons de morale et ses propres actes. Il ne se rend pas compte que 900 000 euros pour sa femme, 80 000 euros pour ses enfants, 45 000 euros d'indemnité de licenciement, cela sonne comme une insulte pour les ouvriers ou pour les chômeurs. Et ce sont les mêmes comportements et la même arrogance que l'on retrouve dans le monde bourgeois, avec ses PDG, ses grands actionnaires, qui n'ont de cesse eux aussi de dire aux travailleurs qu'ils ne travaillent pas assez, qu'ils sont trop payés, alors qu'eux-mêmes empochent des dizaines, des centaines de milliers d'euros par mois sans rien faire de leurs 10 doigts. Alors oui, Fillon est bien à l'image de ces gens-là. Il est socialement étranger au monde du travail et il est politiquement hostile aux travailleurs. D'ailleurs, il ne le cache pas, hein, parce qu'il a le mérite, si l'on peut dire, d'annoncer la couleur. Hein, s'il est élu, et il le dit, hein, ce sera la fin de la sécurité sociale, la suppression de centaines de milliers de postes de fonctionnaires, la loi El Khomri, puissance 10. Mais regardez en face, à gauche, regardez les Hamon ou les Macron, regardez comment ils cherchent encore à nous balader. Pendant ces 5 dernières années, ils ont participé au quinquennat Hollande, qui a entériné les reculs sur les retraites, qui a augmenté la TVA, qui a aidé le grand patronat à baisser les salaires, à augmenter le temps de travail, à licencier. Et les voilà aujourd'hui qu'ils nous promettent de tout changer. Macron ou Hamon s'érigent en petits nouveaux de la politique, plein d'idées soi-disant fraîches et originales. Mais Macron, c'est le travail du dimanche. C'est la remise sur les routes des bus. C'est le culte de l'individualisme et du chacun pour soi. Et il ne jure que par ses auto-entrepreneurs, qui ne sont en réalité que des salariés sans contrat de travail et sans protection sociale. Bien sûr, ils sont libres. Oui, ils sont libres. Mais ils sont surtout libres de s'auto-exploiter pour le compte des groupes capitalistes. Quant à Hamon, il se singularise avec sa proposition d'un revenu de base universel. Il parle de 750 euros d'ici à 2022. Parce que, dit-il, il y aura de moins en moins de travail et donc, sous-entendu, de plus en plus de chômeurs. Et cela a suffi pour que certains reparlent de la gauche qui fait rêver. Mais je crois que le fait de devenir un assisté ne fait rêver aucun travailleur. Parce qu'un travail, ce n'est pas seulement un salaire, mais c'est aussi de la dignité. Il n'y a que chez les bourgeois qu'on est fier de rien faire, de s'enrichir sans rien faire. Alors non, il faut rejeter ce type-là de charité. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires en France. La plupart des grandes entreprises affichent des bénéfices records. Les seules entreprises du CAC 40 ont réalisé 56 milliards de dividendes, ont distribué 56 milliards de dividendes à leurs actionnaires en 2016. Et la fortune d'un Bernard Arnault, patron de LVMH, a augmenté de 7 milliards d'euros en une seule année. Alors non, ce n'est pas l'aumône que nous demandons. C'est une politique qui réponde à nos intérêts, avoir un travail et un salaire, le droit d'être logé et dignement, d'être soigné, le droit pour nos enfants d'accéder à l'éducation et à la culture, le droit d'avoir une retraite décente. Et ceux qui, parmi les travailleurs, se disent que peut-être Le Pen ferait différemment de tous ces politiciens, se trompent. Le Pen est une candidate bourgeoise attachée à l'ordre capitaliste. Comme les autres, elle reprend tous les mensonges patronaux en expliquant qu'il faut par exemple baisser le coût du travail, baisser les dépenses publiques, améliorer la compétitivité. Autrement dit, sous prétexte de rendre compétitives les entreprises, eh bien elle justifiera comme tous les autres l'augmentation du temps de travail, le blocage ou la baisse des salaires, les réductions de cotisations patronales. Le Pen, c'est notre Donald Trump. Elle se déguise en candidate anti-système pour en prendre la tête et pour faire fructifier la fortune de ses petits copains et des plus riches. Pour plaire aux classes populaires, elle parle effectivement des chômeurs et des plus pauvres. À condition, bien sûr, qu'il soit français. Parce que Le Pen, c'est aussi une démagogue qui se sert des préjugés racistes et de la xénophobie. Vous l'avez entendu sur l'agression du jeune Théo d'Aulnay-sous-Bois. Alors que la violence et le racisme de cette agression sont manifestes, elle n'a pas dit un mot pour dénoncer les policiers. En revanche, elle se sert des échauffourées qui ont éclaté pour déverser sa bile contre la jeunesse des quartiers populaires et contre l'immigration en général, qu'elle associe systématiquement aux voyous, à la racaille et aux zones de non-droit. Mais si ces quartiers populaires sont des zones de non-droit, ce n'est pas parce que la police y est mal accueillie. C'est parce que les droits de cette jeunesse sont bafoués en permanence. C'est parce qu'ils n'ont droit qu'à un succès d'année d'éducation. C'est parce qu'ils sont cantonnés au petit boulot mal payé et rejetés dans le chômage. C'est parce qu'ils subissent les humiliations racistes et les discriminations qui les relèguent et les marginalisent dans des ghettos de plus en plus pauvres. C'est parce qu'il y a des dirigeants comme Le Pen, justement, qui veulent jeter de l'huile sur le feu parce qu'ils font des idées racistes leur fonds de commerce électoral. Et plus largement, dans cette campagne, Le Pen s'en prend aux étrangers en voulant taxer leurs contrats de travail ou en imposant qu'ils payent pour leur couverture sociale ou pour l'éducation de leurs enfants. C'est abject. Parce qu'elle s'en prend à ceux qui travaillent sur les chaînes de montage, dans des entreprises de nettoyage, de gardiennage ou de surveillance. Elle s'en prend à des ouvriers, à des intérimaires. Elle brandit exactement la même politique que celle du patronat, divisée pour régner. Alors oui, Le Pen est la digne représentante de la bourgeoisie. Eh bien, à l'opposé de tous ces gens-là, des Le Pen, Hamon, Macron ou Fillon qui se préparent à servir la bourgeoisie, je suis candidate pour la dénoncer. Je suis candidate pour combattre les Bettencourt, Dassault, Peugeot, Michelin, parce que leur prospérité s'édifie sur le dos de l'ensemble du monde du travail. Parce que 20% de plus pour ce grand patronat, eh bien, c'est 20% de moins pour les travailleurs. L'augmentation de leur fortune se fait sur la baisse de nos salaires ou de nos retraites. Ce sont leurs sinécures ou nos emplois. Et c'est la dictature du grand capital sur l'économie ou l'intérêt collectif des travailleurs et de la société. Il n'y a pas d'entre-deux. Il faut choisir son camp. Et le nôtre, c'est le camp des travailleurs. Et il ne s'agit pas seulement des intérêts des salariés ou des chômeurs. Il s'agit des intérêts de tous ceux, artisans, commerçants, petits agriculteurs, auto-entrepreneurs, qui doivent travailler pour gagner leur vie et qui ont eux aussi à se battre en permanence contre le grand capital qui les étouffe. C'est le cas, par exemple, des chauffeurs VTC contre la plateforme Uber. C'est le cas aussi des agriculteurs contre la grande distribution. Et puis, je le redis, parce que dans cette campagne, il y a beaucoup de démagogie, de démagogie nationaliste qui empoisonne tous les débats. Il ne s'agit pas seulement des travailleurs français. C'est une spécialité de Le Pen d'opposer les travailleurs les uns aux autres en fonction de leur nationalité, de leur confession. Elle sème ainsi la haine et le rejet de l'autre et elle favorise en retour le repli communautaire. Alors dans cette élection, je dirais qu'au-delà de notre origine, de nos croyances et de notre couleur de peau, un aspect essentiel de notre vie et de notre identité, c'est que nous sommes des travailleurs, des ouvriers, des employés, des gardiens, des aides-soignantes, des caissières, des enseignants. Alors il faut serrer les rangs, rejeter ceux qui veulent dresser des murs entre nous et affirmer notre conscience d'appartenir à une seule et même communauté, celle des travailleurs et des exploités. Et dans cette élection, il faut affirmer nos intérêts, nos besoins, notre politique. Faire entendre nos intérêts à l'opposé de la politique pro-patronale des autres candidats est ce qu'il y a de plus utile à faire dans ces élections. Tous ceux qui sont susceptibles d'accéder au second tour sont des serviteurs zélés de la bourgeoisie. Alors il n'y a pas de suspense, les jeux sont faits. Celui qui sortira des urnes en mai prochain sera un ennemi des travailleurs. Pour nous, travailleurs, le match est truqué. Il ne faut pas marcher dans ce jeu électoral. Mais puisqu'on nous donne la parole au premier tour, eh bien ne laissons pas le monopole à des politiciens bourgeois qui pensent en bourgeois. Exprimons-nous et disons tout le mal que nous pensons de cette société capitaliste. Et parallèlement à leur comédie électorale, eh bien mettons en avant nos idées, notre propre politique, notre programme de classe, un programme pour les travailleurs. Et le premier point de ce programme, c'est d'éradiquer le chômage. Le patronat et à sa suite tous les politiciens prétendent qu'on ne peut pas faire tourner une usine sans commande assurée et garantie. Eh bien nous, travailleurs, nous devons affirmer qu'on ne peut pas vivre sans travail et que notre vie ne peut pas dépendre des aléas de leur carnet de commandes. Nous ne sommes pas des machines qu'on peut brancher et débrancher. Nous avons une vie, une famille, les loyers, les factures tombent tous les mois, même quand on a perdu son boulot. Il faut remplir l'estomac des enfants. Alors il faut que tout le monde ait un travail et un salaire. Et la première mesure de bon sens qui s'impose, c'est d'arrêter cette hémorragie de fermeture d'entreprise. Ici, dans la région, on peut dire que vous êtes bien servi. Hein, vous connaissez le problème, hein, puisqu'il y a eu Continental, Goodyear, Bigard, beaucoup d'autres petites entreprises dont tu m'as parlé tout à l'heure, Bruno. Et puis maintenant, c'est le tour de Whirlpool. Eh bien, il n'y a pas d'autre façon d'empêcher ces fermetures d'entreprises qu'en les interdisant. Il faut interdire à cette classe capitaliste de fermer ces usines, leur interdire de supprimer des emplois sous peine de réquisition. Toutes ces multinationales, elles sont richissimes. Whirlpool a réalisé 800 millions de dollars de bénéfices l'année dernière, presque pas loin de 1 milliard. On peut les faire reculer, on ne pourra les faire reculer qu'avec des mesures contraignantes. Alors il ne faut pas laisser le droit à cette classe capitaliste de ravager des régions entières. Il faut leur interdire sous peine d'expropriation. Et je n'oublie pas les salariés des plus petites entreprises. Je sais qu'eux aussi sont souvent confrontés au licenciement. Mais leur situation dépend bien souvent de ces mêmes grands groupes capitalistes. Alors il faut qu'ils soient mis à contribution, eux et toutes les grandes banques qui étranglent ces petites entreprises. Parallèlement, il faut aussi créer des millions d'emplois. Pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, pour tous ceux qui n'ont droit depuis des années qu'à quelques heures de boulot par-ci, par-là, et puis pour tous ceux qui sont rejetés de la production parce qu'ils sont invalides ou handicapés. Et c'est possible immédiatement en imposant que le travail soit réparti entre tous. Et ce serait une mesure salutaire pour l'ensemble du monde du travail. Parce que dans presque toutes les entreprises, que ce soit dans le privé mais aussi dans le public, la charge de travail a été alourdie. Les horaires de travail, auxquels il faut rajouter aussi le temps de transport, sont devenus insoutenables. Il faut soulager ceux qui ont un emploi en diminuant leur temps de travail et en créant des emplois, de vrais emplois avec un salaire complet. Il faut faire exactement le contraire de ce qui se passe dans tous ces grands groupes capitalistes avec leur fameux plan de compétitivité et qui consiste à concentrer le travail sur de moins en moins de salariés et à jeter d'autres au chômage. Et puis, regardez les services publics. Est-ce qu'il y a trop d'infirmières ou d'aides-soignants dans les hôpitaux ? Regardez l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a trop d'enseignants ? Pour ce qui est des logements, il en manque 1 million accessibles à un salaire d'ouvrier. Est-ce que nous n'avons plus besoin de maçons, d'ingénieurs, de peintres en bâtiment ? Aujourd'hui, pour venir, nous étions installés dans un train qui n'avait pas de conducteur. Donc le train a été supprimé. Eh bien voilà, il y a aussi de quoi embaucher à la SNCF, dans tous les transports public. Bien sûr, il y a un grand nombre de besoins à satisfaire dans cette société et il y a en face autant d'emplois à créer. Certains nous expliquent, bon, Hamon par exemple, qu'avec la modernisation des moyens de production, avec la robotisation et les gains de productivité, il y aura de moins en moins d'emplois. Mais ça, c'est un raisonnement de patron. Ce n'est pas parce qu'il y a de moins en moins de travail qu'on ne peut pas le répartir et en faire autant d'emplois différents. Nous pensons, nous, au contraire, que les robots, ces gains de productivité, devraient permettre de soulager les salariés, de baisser les cadences et le temps de travail de tous. Mais bien sûr, cela suppose que l'on fasse passer les intérêts des travailleurs et de l'ensemble de la population avant les profits d'une minorité. Mais ce qui est certain, c'est que si nous laissons faire le grand patronat, ce n'est pas 6 millions de chômeurs que l'on comptabilisera, mais 7, 8, 9, 10 millions de chômeurs. Alors oui, la répartition du travail entre tous et la réduction du temps de travail sont des objectifs nécessaires et vitaux pour toute la société. Le chômage, c'est un fléau. C'est le fléau qui pourrit la société de l'intérieur. Il aggrave la misère. Il marginalise, mais il pousse aussi à l'individualisme, à la compétition entre travailleurs. Et c'est aussi de là que naît la peur de l'autre et la déshumanisation de la société. Alors oui, pour nous, c'est la priorité. Il faut un travail et un salaire pour tous. Et puis à côté de cela, il faut bien sûr augmenter les salaires et les pensions de retraite. Les principaux candidats susceptibles d'accéder à l'Élysée nous expliquent qu'il est impossible pour les entreprises d'augmenter le SMIC. Le Pen, par exemple, explique, je la cite, qu'elle n'a jamais proposé d'augmentation du SMIC payé par les entreprises parce qu'elle ne veut surtout pas créer de difficultés au patronat. Et les difficultés qu'ont les millions de femmes et d'hommes à se loger, à se soigner et même tout simplement à se nourrir. Les privations qu'ils s'infligent parce qu'ils sont justement payés au lance-pierre, elles n'existent pas, elles. Le Pen et tous les autres candidats s'en moquent, eh bien ce n'est pas notre cas. Alors oui, il faut une augmentation du SMIC et nous sommes pour l'augmentation de tous les salaires. La CGT met en avant la revendication de 1 800 euros par mois. Et il suffit de faire ses comptes. Il faut payer entre 500 et 700 euros pour le loyer ou le crédit logement, et parfois davantage. 50 ou 100 euros pour le gaz, l'électricité, l'eau. 50 ou 100 euros pour les assurances, la complémentaire santé. Il faut payer l'accès à Internet, le téléphone portable. Il faut payer les traites de la voiture, l'assurer, faire le plein. C'est encore 400 ou 500 euros minimum qui s'en vont. Et puis, il faut encore payer les impôts, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation. À la fin, Il reste quelques euros par jour pour payer nourriture, vêtements et autres articles de consommation courante. Et puis avec les enfants, c'est encore plus serré. Alors oui, 1800 euros net par mois, c'est bien le minimum qu'il nous faut pour tous les salaires et pour les pensions de retraite. Quant aux minima sociaux, ou au RSA, ou à l'allocation adulte handicapé, eh bien, il faut qu'il soit transformé en salaire. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde doit avoir le droit d'être intégré à une activité utile et donc d'avoir un emploi. Et ces 1800 euros ne sont qu'un rattrapage. Parce que figurez-vous qu'il y a 10 ans, on a fait nos petites recherches, le SMIC net était de 1000 euros par mois. Aujourd'hui, il est de 1150 euros par mois. Cela fait une hausse sur 10 ans de 15%. Et savez-vous de combien ont augmenté les PDG, les salaires des grands PDG, les PDG donc du CAC 40, c'est ces chiffres-là qu'on a. Eh bien, ils ont augmenté de 65% en 10 ans. Et ça partait pas du même niveau, Alors oui, il faut un minimum de 1800 euros net par mois et une augmentation minimale de 300 euros de tous les salaires. Et pour que ces hausses soient durables, eh bien, il faut que les salaires et les pensions de retraite suivent les augmentations du coût de la vie, celles des loyers, du gaz, des mutuelles, des impôts et des taxes, celles des péages d'autoroute. On nous dit qu'il n'y a plus d'inflation, mais il suffit de comparer sa taxe d'habitation, sa facture d'électricité ou d'assurance avec celle de l'année précédente pour voir que les prix augmentent. Entre les salaires et les prix, il y a une course perpétuelle. Alors ce qui compte, c'est que nos salaires et nos pensions suivent le coût de la vie. Alors voilà notre programme en termes d'augmentation de salaire. De bonnes âmes, très bien payées, elles, m'ont déjà expliqué que c'était complètement utopique. Et que ces 1800 euros ruineraient beaucoup d'entreprises. Alors je parle de 1800 euros par mois et on me parle d'utopie. C'est donc de l'utopie que d'espérer vivre sans avoir à compter le moindre euro dans cette société capitaliste. C'est de l'utopie que d'espérer pouvoir se chauffer comme il faut, payer ses études, des études à ses enfants, le permis. Mais les Carlos Ghosn, les Tavares, les PDG des grandes entreprises, les Bernard Arnault, les Bettencourt, avec leurs dizaines de milliards, ils ne vivent pas dans l'utopie. Ils vivent dans notre monde, dans le monde réel. Alors, dire que c'est de l'utopie, c'est un choix de classe. S'il y a une utopie dans toute cette affaire, eh bien c'est d'attendre ces augmentations d'un futur président de la République. Parce qu'en réalité, pour y parvenir, il faudra renouer avec les luttes collectives puissantes et imposer un nouveau rapport de force avec le patronat. Un rapport de force tel qu'il se mette à craindre pour sa propriété sur les usines et pour qu'il cède sur toutes ses revendications. La société est riche, très riche, et il faut prendre l'argent nécessaire sur les profits des entreprises, sur les dividendes distribués aux actionnaires et aux besoins sur leur fortune accumulée au détriment de générations de travailleurs. C'est la raison pour laquelle les travailleurs doivent imposer le contrôle sur les dirigeants. Il est de bon ton pour les politiciens de parler de transparence, mais en réalité, ils empêchent que les travailleurs... Ils empêchent les travailleurs de l'imposer, y compris quand les journalistes lèvent des lièvres. Et bien vous les entendez tous s'indigner. C'est ce qui se passe, par exemple, avec l'affaire Fillon. Monsieur Fillon, qui se présente pour la présidence de la République, s'indigne de ce qu'on lui demande des comptes. Mais des comptes, les travailleurs sont sommés d'en rendre en permanence. Au moindre entretien d'embauche, à la moindre lettre de motivation, on est inspecté sous toutes les coutures. Et pour certains emplois, il faut même un casier judiciaire vierge. Et c'est pareil pour les chômeurs, qui doivent s'expliquer sur toute leur recherche d'emploi, qui doivent fournir des preuves, justifier de leur demande s'ils veulent repousser un rendez-vous. C'est la même chose quand on est en arrêt maladie, y compris quand on souffre d'une maladie grave. Oui, on est examiné sous toutes les coutures. Alors, bien sûr, il faut demander des comptes à tous ces politiciens. Et plus décisif encore, eh bien les travailleurs doivent pouvoir contrôler collectivement les comptes des entreprises et de la bourgeoisie. De fait, les travailleurs savent tout ce qui se passe dans les entreprises. Pas un courrier, même secret, n'échappe à l'assistante du PDG. Quand l'assistante, quand ce n'est pas un emploi fictif, hein, quand c'est une vraie assistante. Parce qu'elle prépare les courriers, elle les tape, elle les envoie. Collectivement, tous les salariés, en rassemblant les informations auxquelles ils ont accès, eh bien, ils peuvent avoir le contrôle sur toutes les décisions et sur l'argent qui circule dans l'entreprise. Les patrons le savent parfaitement. Et d'ailleurs, ils le craignent. C'est la raison pour laquelle ils ont imposé le secret des affaires, le secret professionnel. Eh bien, il faut imposer la levée de ce secret. Cette mesure est un objectif essentiel parce qu'elle modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs en donnant de nouvelles armes aux travailleurs. Il en serait fini du chantage patronal, des rumeurs et des fausses informations. Les travailleurs sauraient à quoi s'en tenir. Ils pourraient anticiper, s'organiser face aux attaques patronales et prendre l'initiative pour imposer les intérêts des travailleurs. Et alors, on mesurerait l'ampleur de ce que l'exploitation rapporte. Et on mesurerait qu'il est tout à fait possible et d'augmenter les salaires et d'embaucher dans tous ces grands groupes qui font aujourd'hui l'appui et le beau temps sur toute l'économie. Alors voilà notre programme. Ce n'est pas, comme les autres candidats, un catalogue de promesses numérotées hein, qui seront aussi vite bafouées qu'elles ont été inventées. C'est un programme qui découle de nos besoins. Et oui, c'est le plus radical. Parce que contrairement aux autres candidats, nous ne cherchons pas à épargner la bourgeoisie et ses profits. Contrairement aux autres, nous ne considérons pas le marché et la concurrence comme des lois de la nature, mais comme les bases d'un système établi par une minorité et qui ne fonctionne que pour une minorité. Nous sommes communistes et nous pensons que la société devrait fonctionner sur des bases collectives, dans l'intérêt de tous. Autrement dit, nous n'avons aucun fil à la patte, nous pouvons nous engager dans le bras de fer avec le patronat et nous sommes prêts à le combattre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'expropriation. J'appelle les travailleurs qui sont d'accord avec ce programme à voter pour ma candidature. Je les appelle à faire un vote de classe et de combativité. Bien sûr, voter, ce n'est pas encore agir et se battre réellement. Mais le combat commence dans les têtes. On ne peut pas se lancer dans le combat sans être sûr de sa légitimité. Et on ne peut pas gagner sans être sûr de ses intérêts, sans comprendre où sont nos ennemis, où sont nos faux amis. Tout cela se forge dans le combat politique, dans le combat des idées. Et le premier tour de cette élection présidentielle nous donne l'opportunité d'avancer dans ce sens-là. Alors il faut y aller. Nous n'avons pas encore de parti à opposer à la bourgeoisie. En tout cas, pas de parti capable de mener le combat politique à armes égales avec les partis bourgeois. Et c'est tout le problème. Si les conditions d'existence des travailleurs reculent depuis des décennies, s'ils sont désorientés, si la confusion règne dans beaucoup de têtes, c'est qu'il n'y a plus de parti ouvrier digne de ce nom depuis longtemps. Le vote pour ma candidature permettra, le temps d'une élection, de faire apparaître les travailleurs comme une force politique, comme un camp politique. Mais il faut aussi qu'ils se maintiennent après les élections. Parce que nous n'avons pas seulement besoin d'exprimer nos intérêts à un moment donné, nous avons besoin de mener le combat tous les jours, au quotidien, dans les entreprises, en permanence, contre la politique anti-ouvrière, relayée par tous les gouvernements qui se succèdent, hein, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite. Et cela, eh bien, c'est le rôle d'un parti. Il faut un parti qui affirme que la société est divisée en deux classes sociales, aux intérêts inconciliables, et que nous devons nous battre en ne comptant que sur nos propres forces pour défendre notre droit à l'existence. Un parti qui affirme que les travailleurs peuvent très bien se passer du grand capital parce que ce sont eux qui font tout fonctionner dans la société. Alors voter, ce n'est pas encore construire ce parti, mais c'est déjà rassembler de façon ponctuelle derrière un drapeau. Et puis, d'élection en élection, de mouvement de grève en manifestation, eh bien cela participe de la construction du parti. Alors, votez et entraînez les gens autour de vous pour faire entendre le camp des travailleurs et aidez-nous à construire ce parti qui manque tant aujourd'hui à la classe ouvrière. À gauche de la gauche, le vote pour Mélenchon n'a absolument pas cette signification. Mélenchon a lancé le mouvement de la France insoumise pour mener sa campagne. Dans certains de ses meetings, il parle de la classe ouvrière, de son rôle indispensable et de ses droits. C'est une petite musique plaisante aux oreilles, mais il manque les paroles. Concrètement, quels sont les engagements de Mélenchon vis-à-vis des travailleurs ? Il promet l'abrogation de la loi El Khomri, le SMIC net porté à 1300 euros, les vraies 35 heures. Eh bien, c'est loin, c'est très loin de ce qui est nécessaire. Et pourquoi ? Parce que Mélenchon se veut responsable. Parce qu'il veut proposer une politique acceptable par la classe capitaliste. C'est bien beau de dénoncer la finance dans de grandes phrases radicales. Hollande, en son temps, l'avait fait superbement. C'était le discours du Bourget, souvenez-vous. Le problème, c'est de dire si l'on est prêt ou pas à la renverser, cette finance. Mélenchon se dit prêt à renverser beaucoup de choses. La Ve République, les traités européens, mais pas le pouvoir de la bourgeoisie. Pas le pouvoir de cette classe capitaliste sur la propriété privée des moyens de production. Avec d'autres, y compris Le Pen et Dupont-Aignan, Mélenchon se veut le champion du souverainisme et de l'indépendance de la France. En renégociant ou en sortant de l'Union européenne et de l'OTAN, nous redeviendrions souverains. Le pouvoir reviendrait au peuple, nous dit-il. Ce sont des mots en l'air. Les seuls souverains dans cette société, ce sont les capitalistes. C'est Michelin, le roi du caoutchouc, Bettencourt, la reine des cosmétiques. C'est Sanofi, le grand maître des médicaments. Mais quand on est exploité, quand on appartient au monde ouvrier, eh bien on est souverain de rien du tout. Que les lois se décident en France, dans une 5e ou une 6e république, ou qu'elles se décident à l'échelle de l'Europe, on est dépendant de cette classe qui possède des capitaux et qui a le pouvoir de nous embaucher ou pas. Le pouvoir de nous verser un salaire entier ou pas, le pouvoir de fixer nos horaires, les dates de nos congés. On est dépendant pour tout, pour le choix de son métier, de son poste de travail, pour le choix de son lieu de travail, y compris quand on est jeune, quand on est encore étudiant. Comment choisit-on ses études ? En fonction de ses passions, de ses envies ? Non, en fonction du marché du travail, c'est-à-dire en fonction des besoins patronaux. Alors parler de souveraineté, c'est encore une façon de brouiller les consciences des travailleurs et de les détourner de leur combat de classe. Et puis, c'est faire croire qu'il y a des intérêts communs entre les travailleurs de France et la bourgeoisie de France. Alors non, laissons ces mots d'ordre de souveraineté du peuple ou de la France aux partisans de la bourgeoisie et reprenons les objectifs qui ont toujours été ceux du mouvement ouvrier, l'émancipation des exploités à l'échelle de la planète. Émancipation qui sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et pas l'œuvre d'un sauveur suprême. Alors bien sûr, Mélenchon fera plus de voix que moi, parce qu'il est compatible avec le système, et puis parce qu'avec lui, tous ceux qui cherchent un raccourci en dehors des luttes collectives, en se raccrochant à un énième sauveur suprême, seront bien servis. Mais les voix qui se porteront sur Mélenchon ne mèneront nulle part, si ce n'est à de nouvelles désillusions. En revanche, les quelques centaines de milliers de voix qui se porteront sur ma candidature auront, elles, contribuer à élever la conscience de classe. Elles auront armé politiquement les travailleurs. On ne peut pas regretter le recul de la conscience ouvrière et renoncer à affirmer sa propre conscience de classe quand on en a l'occasion politique. Oui, le monde ouvrier a besoin de repères politiques et de boussoles. Eh bien, il faut que cette élection soit l'occasion de les mettre en avant. Et à l'inverse de Mélenchon et de son mouvement qui n'existe que pour le porter à la présidentielle, eh bien, notre campagne, elle nous aidera à avancer dans la construction du parti qui est nécessaire aux travailleurs. Alors oui, ce sera un vote constructif. Malgré toutes les trahisons subies, il faut que le mouvement ouvrier retrouve confiance en lui-même. Appartenir au monde du travail doit être un motif de fierté. La bourgeoisie, les actionnaires, les PDG prétendent être la clé de voûte du système. Ils ne sont rien sans nous. Imaginez les Arnauds sans les salariés des hôtels et des restaurants de luxe. Imaginez-les sans les conducteurs de train, sans les pilotes d'avion, sans leurs cuisiniers, leurs majordomes, leurs babysitters. Si nous ne faisions plus tourner leurs bureaux, leurs usines, où feraient-ils fructifier leur fortune ? Alors oui, nous représentons une force sociale. Une force sociale qui a prouvé à bien des reprises dans le passé qu'elle n'était pas vouée à subir, mais qu'elle pouvait aussi se battre. Nous fêtons cette année le centenaire de la Révolution russe. Il y a 100 ans, les ouvriers et les paysans russes ont fait la preuve que la classe ouvrière pouvait prendre le pouvoir et s'en servir pour transformer la société par en bas et pour en créer une autre radicalement différente basée sur la propriété collective. Une société sans patron, sans la domination de l'argent et du profit. Une société et une économie d'abord organisées pour répondre aux besoins de toute la population. Eh bien, il faut connaître cette histoire. Parce que le peu de temps que les travailleurs sont restés au pouvoir, ils ont réalisé ce qu'aucun autre gouvernement n'a fait. Aussitôt mis en place, le pouvoir révolutionnaire a soutenu les paysans pour qu'ils se distribuent les terres. Il a organisé la production pour répondre aux besoins urgents de toute la population, en contrôlant et en expropriant quand la bourgeoisie ne voulait pas collaborer. Ils ont réquisitionné les immeubles bourgeois pour que tout le monde ait un toit sur la tête. Ce pouvoir révolutionnaire a aussi, et c'est sans doute le plus important, mis fin à la participation de son pays à la boucherie que constituait la Première Guerre mondiale. Il a donné la possibilité à tous les peuples qui étaient sous la domination de la Russie de se libérer et d'être indépendants. Et il a non seulement donné l'égalité des droits aux femmes, mais il les a associés à tous les niveaux du pouvoir. Quel autre gouvernement prétendument démocratique a réalisé tout cela ? Aucun. Et même si le stalinisme a finalement pris le dessus, en déformant et en caricaturant et en trahissant les aspirations des révolutionnaires, eh bien cela ne peut pas effacer ce que les travailleurs ont réalisé. Alors oui, nous pouvons être fiers de ce que notre classe sociale a réalisé dans le passé. Et nous avons confiance dans cette classe sociale pour ce qu'elle peut aussi réaliser dans l'avenir. Les travailleurs sont les seuls à pouvoir impulser une société débarrassée de l'exploitation, du capitalisme, de la concurrence, de ses crises et de ses guerres. Parce que le capitalisme ne pousse pas seulement les opprimés à la déchéance matérielle, il pousse toute la société à la décadence morale. Il pousse à l'indifférence, à l'isolement ou à la haine de l'autre. Et il fait le lit de la délinquance et même de ce fanatisme religieux. Quand ce n'est pas la barbarie des bombardements ou du terrorisme, c'est la barbarie des murs, des barbelés que l'on oppose à des centaines de milliers de femmes et d'hommes qui fuient l'enfer. Et à ce propos, je tiens à affirmer mon entière solidarité aux femmes et aux hommes du pays qui offrent un toit, un repas, de l'aide aux migrants. Aujourd'hui, en particulier à la frontière italienne, dans les Alpes-Maritimes, ils sont arrêtés, gardés à vue, poursuivis en justice simplement parce qu'ils se comportent humainement et puis parce que le gouvernement a inventé ce fameux délit de solidarité. Eh bien, si se conduire humainement est un délit, vive le délit d'humanité. Et sur le fond, sur la question des frontières, les principaux candidats sont d'accord. Il faut des frontières de plus en plus étanches, de plus en plus élevées. Et de nous répéter en boucle qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais dans les beaux quartiers, l'argent coule à flot. Les caprices de riches se chiffrent par centaines de millions. L'argent gaspillé dans la spéculation se compte par dizaines, par centaines de milliards. Et on ne pourrait rien faire contre la misère. La misère, ce sont eux qui la fabriquent. Ils la fabriquent en Syrie par leurs manœuvres et leurs bombes. Ils la fabriquent ici, par le chômage et la précarité. Et ils se servent du drame des migrants pour nous prêcher la résignation. Parce qu'au fond, ils nous disent qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, exactement comme ils nous expliquent qu'on ne peut pas assurer un travail à tous ou qu'on ne peut pas espérer la retraite à 60 ans. En tant qu'exploités, Nous sommes tous des migrants potentiels. Alors, ce n'est pas qu'une question de solidarité. C'est notre intérêt de nous battre pour la liberté de circulation et d'installation de tous les opprimés de cette terre. Notre intérêt de classe n'est sûrement pas de nous battre entre nous pour se partager la misère, mais c'est d'imposer ensemble le contrôle sur les richesses que nous produisons. Et c'est de s'opposer à ce qu'elles soient confisquées par une minorité. Les travailleurs n'ont rien à gagner à la concurrence entre eux, rien à gagner à la compétition économique entre les peuples, rien à gagner aux guerres qui sont le fruit des rivalités impérialistes. Les travailleurs sont de toute nationalité, de toutes les religions, de toutes les couleurs de peau, mais ils n'ont qu'une seule politique qui corresponde à leur intérêt, c'est celle de se libérer de l'exploitation. Alors, loin, très loin de l'individualisme effréné du capitalisme, eh bien, il représente la seule force sociale capable de construire une société de justice, de fraternité, débarrassée des classes sociales et débarrassée du nationalisme, du racisme et de la xénophobie. Alors oui, voilà aussi ce que représente pour nous le camp des travailleurs, la perspective d'une société communiste. Depuis des décennies, l'élite dite intellectuelle explique qu'il n'y a plus d'ouvriers, qu'il n'y a plus de classe ouvrière. Et regardez comment on parle aujourd'hui des travailleurs, presque comme d'une classe en voie, comme d'une espèce en voie de disparition. Aujourd'hui, mais voilà, mais nous, là, aujourd'hui, hein, bah nous sommes quoi ? Nos familles, nos barres d'immeubles, nos quartiers, nos villages sont composés d'actionnaires, de rentiers ? Bien sûr que non. De femmes et d'hommes comme nous qui sont au chômage ou qui travaillent dans des métiers bien souvent les plus pénibles. Et puis l'économie que l'on nous vend comme moderne, l'économie Uber, eh bien elle produit elle aussi des travailleurs, dont des chauffeurs qui étaient peut-être fiers d'être indépendants il y a un an ou deux, mais qui aujourd'hui se battent pour être embauchés en tant que salariés. Alors oui, la classe ouvrière existe. Et s'il y en a qui peuvent prétendre qu'elle n'existe plus, c'est parce qu'elle se rend invisible politiquement. On l'a vu pourtant intervenir lors de la mobilisation contre la loi El Khomri. Et encore, ce n'était qu'une fraction de la classe ouvrière qui était mobilisée et qui était dans la rue. Il y avait beaucoup de réserves dans les entreprises, dans les ateliers, dans les bureaux. Eh bien, il faut que cette classe ouvrière s'exprime sur le terrain politique dans ces élections. On nous met dans la tête que cette élection doit servir à élire quelqu'un, le futur président de la République. Avec cette logique, forcément, il faut parier sur le tiercé de tête et je n'en fais pas partie. Mais encore une fois, choisir le prochain président de la République qui nous portera les coups n'a aucun sens. Imaginez qu'une élection soit organisée dans votre entreprise pour élire le prochain PDG qui aura la mission de mettre en œuvre le énième plan de licenciement ou le énième plan de compétitivité. Est-ce que vous le choisiriez ? Dans cette élection, on nous demande d'élire le prochain président qui fera encore reculer les retraites, qui donnera plus de liberté pour que les patrons nous exploitent et qui fera reculer nos conditions de vie et de travail. Alors il ne faut pas marcher là-dedans. L'enjeu ne doit pas être de chercher à élire l'un plutôt que l'autre. L'enjeu doit être d'exprimer ses intérêts, ses perspectives politiques. J'appelle tous ceux qui partagent ces idées à voter pour ma candidature, sans craindre d'être minoritaire ou à contre-courant. Encore une fois, à quoi cela sert-il de voter avec la majorité quand cela conduit à élire un adversaire ? Aujourd'hui, combien de travailleurs se mordent les doigts d'avoir voté pour Hollande en 2012 ? Il faudrait recommencer avec un autre ? Croire qu'il faut voter utile ou voter pour le moins pire pour essayer de se protéger est aussi un leurre. Il n'y aura pas de moins pire pour le monde ouvrier s'il ne se bat pas collectivement. Quant à s'abstenir, ce n'est sûrement pas une preuve de conscience ou de radicalisme. S'abstenir, c'est se soumettre et puis c'est déserter. Parce que si nous ne défendons pas nos idées, personne ne le fera. Personne ne mènera le combat à notre place. Alors parfois, on ne trouve pas le moyen de se battre, de faire grève, de manifester ou simplement de protester, parce qu'on est seul ou parce que le rapport de force est trop défavorable. Mais voter, s'exprimer dans l'urne est un geste à la portée de tous, et il n'y a pas de petits combats, il n'y a pas de petits gestes. Quand on est minoritaire, eh bien la moindre voix compte et peut porter. Alors il faut entraîner le maximum de ceux qui nous entourent à joindre leur voix à la nôtre. Nous sommes, c'est vrai, à contre-courant, mais quand le courant pousse dans une direction aussi réactionnaire, aussi infecte, voire barbare, quand le courant pousse à la soumission et à la résignation, eh bien oui, nous pouvons être fiers d'être à contre-courant. Alors je suis la candidate de Lutte ouvrière. Les institutions sont ainsi faites qu'il fallait un nom et mes camarades m'ont choisi pour porter cette campagne. Mais ce n'est sûrement pas une campagne individuelle ou personnelle. Bien sûr, je serai en première ligne dans les médias et je me battrai comme je pourrai sur les plateaux de télé à chaque fois que l'on me donnera la parole. Mais en quelques minutes, je ne ferai pas de miracle. Je convaincrai surtout les convaincus et je toucherai peut-être aussi ceux qui sont révoltés par la situation mais qui doutent de leurs convictions et qui n'osent plus avoir d'idéal. Parce qu'une campagne comme celle-ci, relayée au niveau national, permet justement de s'adresser à des millions de travailleurs. Et parmi eux, eh bien, il y a plusieurs centaines qui partagent à un degré ou à un autre ces idées. Ma candidature leur permettra de rompre leur isolement, de se rallier à un camp. Et elle leur permettra de se conforter dans leurs convictions. C'est déjà quelque chose de très important. Mais bien plus largement, il y a aussi tous ceux qui se posent des questions, qui sont perdus. Il y a encore tous ceux qui retombent dans les illusions électoralistes. Tous ceux qui sont tellement écœurés qu'ils ne veulent plus entendre parler de politique, de voter. Et tout cela, eh bien, ils sont dans nos familles. Ce sont des amis, des voisins, des collègues de boulot. Et c'est vous qui pouvez les toucher en prenant le temps de la discussion. Il faut essayer de les convaincre, de leur donner envie de s'exprimer en tant que travailleurs, salariés, chômeurs. Au-delà du résultat, ce qui comptera, ce sont toutes les discussions que vous aurez eues. Le simple fait d'avoir affirmé des convictions, d'avoir fait réfléchir, d'avoir apporté des réponses, d'avoir fait avancer des idées parmi les nôtres est important. Nous sommes une petite organisation. Mais les idées que nous portons nous dépassent parce qu'elles sont inscrites dans les bases même de la société. Elles reflètent la lutte de classe à laquelle des millions de femmes et d'hommes sont confrontés. Et tôt ou tard, eh bien, ils auront besoin de ces idées. Alors, rien n'est à négliger. Toutes les discussions seront utiles. Alors, vous l'avez compris, Pour que cette campagne soit une bonne campagne, pour que cette campagne soit une campagne réussie, eh bien, il faut que ce soit une campagne militante, il faut que ce soit notre campagne, il faut que ce soit votre campagne. Et pour finir, un petit effort de projection dans l'avenir. Au lendemain de l'élection présidentielle, en mai prochain. Qu'est-ce qui aura changé pour nous ? Ben, nous irons au travail, pour ceux qui en ont un. Beaucoup iront pointer à Pôle emploi ou à l'agence d'intérim. Et on se retrouvera confrontés aux mêmes chefs, aux mêmes patrons, aux mêmes actionnaires, invisibles mais tout puissants. On se retrouvera confrontés à son banquier, à son propriétaire, qui n'admet aucun retard de paiement, même quand on a perdu son boulot. On se retrouvera confronté au pouvoir de l'État, qui sait très bien dérouler le tapis rouge pour les plus riches, mais qui est sans pitié pour les classes populaires. Autrement dit, rien de fondamental n'aura changé pour nous, parce que ces élections ne changeront pas notre condition d'exploiter, ni cet ordre social qui est dominé par l'argent et par la bourgeoisie. La nouveauté, c'est que le petit personnel politique aura changé. Les riches auront un nouveau président de la République à leur disposition. Mais pour nous, le combat continuera. Alors, dès aujourd'hui, dans cette campagne, levons notre drapeau, celui des travailleurs et des luttes collectives. Votez et faites voter pour faire entendre le camp des travailleurs. Faites un vote de classe, un vote de conscience et de fierté ouvrière. C'est cela qui préparera qui nous préparera au combat que nous aurons forcément à mener, parce que ce soit l'un, que ce soit l'autre, de toute façon, le prochain président de la République nous attaquera et il faudra qu'on se défende.